60 ans à prendre soin de chacun. Voilà une belle devise pour le groupe Pierre Fabre qui souffle actuellement ses 60 bougies, solidement implantées dans notre région avec 95% de sa production industrielle réalisée pour notre région, je disais, notamment dans le Tarn, l'Hérault, le Gers et le Lot. Le groupe emploie plus de 3600 salariés en Occitanie. Pour nous parler de cette belle épopée et de l'héritage de son fondateur, nous sommes avec le directeur de la communication et de l'engagement du groupe Pierre Fabre. Bonjour Marc Alias.
Bonjour Isabelle.
Alors tout a commencé en 1962 avec Monsieur Pierre Fabre, comme vous l'appeliez, pharmacien de profession. Il cherchait tout simplement à écouter ses patients, en tout cas ses clients, et à soulager ses clientes qui se plaignaient de jambes lourdes. Racontez-nous un petit peu ce début.
Alors en fait, l'aventure avait démarré une dizaine d'années plus tôt, parce que Pierre Fabre était pharmacien, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de Toulouse. Et je crois que c'est en 1951 qu'il a racheté une officine à Castres. Il était très jeune, il devait avoir 23 ou 24 ans à l'époque. Et donc, très vite, il s'est intéressé évidemment aux besoins que pouvaient lui remonter ses patients. Et notamment, parmi ses patients, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à l'époque dans l'industrie textile, qui étaient souvent employées dans des positions qui voilà, étaient assez pénibles et qui se plaignaient de ce qu'on appelle les jambes lourdes. Et pendant ses études, il avait entendu parler des vertus d'un actif que l'on pouvait extraire d'une plante qui s'appelle le petit houx, une plante qui pousse dans le Tarn. Et cet actif avait, et a toujours d'ailleurs, des propriétés vénotoniques. Et donc à l'époque, c'était un médicament très innovant qu'il a lancé. Et qui est parti vraiment de l'écoute de ses patients. Et je dirais que voilà, l'aventure démarrait sur cette idée de « je vais prendre soin des personnes qui finalement ont besoin de cette écoute et de ce soin. »
Il disait « pharmacien, c'est le plus beau des métiers ».
C'est vrai que c'est un métier extraordinaire parce qu'il combine à la fois cette dimension de santé publique, de l'écoute des gens, et en même temps, ça lui a permis de développer cette vocation d'entrepreneur. Il avait cette double vocation, à la fois du soin et puis de l'entreprise. Et puis, il avait une passion qui était la botanique. Et vous voyez que dès le départ, avec ce vénotonique qui s'appelle le Cyclo 3, qui est toujours commercialisé aujourd'hui dans le monde entier, il a réuni vocation et passion.
Vocation et passion. Alors, quand il est mort, Pierre Fabre, le 20 juillet 2013, évidemment, de nombreuses voix se sont élevées pour saluer cette figure du Tarn. Pour ne citer qu'une seule de ces voix, Jean-Michel Bellet, qui était à l'époque président directeur général du groupe La Dépêche, écrivait « La France perd un homme d'entreprise visionnaire, mais aussi un humaniste profond, un homme généreux, qui, à travers sa fondation, se souciait toujours du malheur des hommes ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait, Marc Alias ?
Oui, je crois que c'est quelqu'un qui avait chevillé au corps l'idée que rien de grand ne peut s'accomplir, y compris dans le domaine industriel et économique, sans respect de l'homme et de la nature. Et puisque vous parlez de la Fondation, il faut peut-être en dire un mot.
Oui, tout à fait. Mais je voulais, avant qu'on parle de la Fondation, je voulais que vous nous décriviez un petit peu qui était cet homme. Alors, quelles étaient ses qualités,
voilà,
ses défauts.
Alors moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais finalement à peu de reprises, puisque je suis rentré dans le groupe en 2011. Pierre Fabre a disparu en juillet 2013, mais j'ai le souvenir de quelques rencontres extrêmement marquantes avec lui. Voilà, c'est un homme qui parlait peu, qui écoutait beaucoup et qui surtout vous insufflait énormément d'énergie. En tout cas, moi, c'est comme ça que modestement, j'ai pu le percevoir. Et je pense que dans l'entreprise, tout le monde se sentait galvanisé par l'idée de servir la vision, la mission que Pierre Fabre s'était donnée. Je parlais tout à l'heure de vocation, je parlais de passion, mais au fur et à mesure que son entreprise s'est développée, de Castres, dans le Tarn, dans l'Occitanie, je pense aussi qu'il s'est senti investi d'une mission qui était de contribuer au développement économique, et au-delà de l'économie culturelle, sociale de cette région qui a énormément de qualité en termes de dynamisme économique, mais qu'il fallait exprimer, et il y est parvenu.
Il avait un lien très fort entre quand il était face à une personne, il y avait quelque chose qui passait, il y avait un...
Oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir le vivre, mais surtout on me l'a beaucoup...
Beaucoup raconté.
Rapporté. Mmh. Aujourd'hui, l'entreprise et le groupe est présidé par Pierre-Yves Revol, il est dirigé par Éric Ducournau et d'autres personnes qui sont aux commandes de cette entreprise et qui ont été formées d'une certaine manière, en tout cas qui ont très très bien connu Pierre Fabre. Et voilà, quand vous les entendez, quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils sont encore portés par cette force.
Par ce charisme.
Voilà. Mmh. Il y a ce poème de Victor Hugo, une force qui va. Et moi, je pense que ça décrit assez bien l'entrepreneur, l'homme, qui était Pierre Fabre, qui encore une fois était quelqu'un de très humble.
Oui, parce qu'il n'aimait pas les mondanités.
Pas du tout, il n'aimait pas les mondanités. Je pense, il était passionné par les médias et par la presse, mais c'était un homme qui ne donnait pas d'interview, parce que je pense tout simplement qu'il était, voilà, il avait cette discrétion. Je me souviens, quand je suis arrivé dans le groupe en 2011, on m'a remis un très beau livre des éditions Privat, qui s'appelait
Édition de notre
Castres,
région.
Voilà, exactement, Castres. Et le titre, c'était à la fois discrète mais ambitieuse. Voilà. Et je pense que
à l'image de Pierre Fabre.
À l'image de Pierre Fabre, il avait cette ambition non pas pour lui-même, mais pour sa ville, pour sa région. Et voilà, je pense que sans lui, il est probable que Castres et le Tarn n'auraient pas aujourd'hui exactement le même profil.
Et le même dynamisme. Alors on dit de Pierre Fabre qu'il était un homme visionnaire, et la façon dont il a préparé sa succession dès 2008, en créant la Fondation Préfab en témoigne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fondation ?
Alors, d'abord, cette fondation, elle est reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration de la fondation, siègent deux représentants de l'État, dont le préfet du Tarn. Et donc, ce conseil d'administration s'assure que la fondation suit, respecte les missions pour lesquelles elle a reçu, cette reconnaissance de fondation
publique.
D'utilité publique. Mais elle a une autre particularité, c'est que grâce à la générosité de Pierre Fabre, elle est l'actionnaire très majoritaire du groupe Pierre Fabre. Alors, elle n'intervient pas du tout dans la vie de l'entreprise. Hein. Il y a vraiment une séparation, je dirais, entre la fondation qui poursuit ses missions humanitaires, notamment en Afrique.
Oui, nous allons y venir.
Et puis l'entreprise qui, comme toute entreprise, cherche à se développer, à croître et à faire d'ailleurs des bénéfices. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que la fondation ne tire ses subsides finalement que des dividendes que va lui verser l'entreprise. Et il faut bien comprendre qu'à chaque fois que l'entreprise parvient à réaliser 100 euros de bénéfices, ben ces 100 euros sont soit réinvestis dans l'entreprise,
dans la recherche,
pour financer la recherche, mm-hmm. pour financer la fabrication. Vous parliez tout à l'heure de nos usines qui sont majoritairement basées en Occitanie. C'est ce que Pierre Fabre a fait toute sa vie, réinvestir. Et puis, il y a une partie de ces dividendes qui vont directement à la fondation.
Donc avec une part qui va aux salariés.
Alors, par ailleurs, les salariés sont aussi actionnaires. Ça, c'était aussi
une particularité,
une idée qui était très, très chère à Pierre Fabre et qui, en 2005, a lancé un plan d'actionnariat salarié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est détenue très majoritairement par cette fondation Pierre Fabre reconnue d'utilité publique et par les salariés. Alors ça a une vertu, je dirais, de créer beaucoup d'engagement. Vous parliez tout à l'heure d'engagement. Eh bien, tous les collaborateurs de Pierre Fabre, puisque nous sommes actionnaires à près de 95% de l'entreprise, le fait d'être actionnaire, le fait de savoir que le fruit de nos travaux in fine bénéficie à une fondation reconnue d'utilité publique, ça a probablement pour vertu de nous rendre encore plus fiers de contribuer au développement de cette entreprise. Même si je vous avoue que tous les matins, quand on se réveille, on ne pense pas forcément à ça. On pense
non, mais
à...
vous pensez à Radio Présence, c'est bien.
Voilà, exactement.
Quand vous vous levez. Alors, lors d'un déplacement au Nigeria, il assiste à une campagne de vaccination dans un village africain et il fait analyser le contenu de la seringue et ce n'était que de l'eau distillée. Quelle a été la principale préoccupation de Pierre Fabre à l'égard des populations pauvres?
Déjà, je reviens, si vous voulez, à l'idée de départ, qui c'est un homme qui se préoccupait beaucoup, je parlais tout à l'heure des besoins, des problèmes de ses patients. Et là, voilà, quand il a fait analyser effectivement ces pseudo-vaccins, il a été choqué et il a voulu faire quelque chose. Bon, alors, le problème des faux médicaments, de la contrefaçon des médicaments, c'est un problème immense
au
niveau mondial. Et il s'est dit, il faut que je fasse ma part. Et il a eu cette idée que cette part qu'il pouvait faire, c'était d'aider à former notamment des pharmaciens dans des pays où la formation des professionnels de santé est parfois compliqué. La fondation a une trentaine de programmes aujourd'hui, dont le développement avec les autorités malgaches d'une faculté de pharmacie à Madagascar.
Cette implantation internationale, on va dire, part quand même de cette implantation locale, puisque Pierre Fabre a toujours voulu développer son activité depuis son territoire pour y maintenir l'emploi. Pierre Evrevol, vous le disiez, qui est actuellement président de Pierre
C'est
Fabre
ça.
Participation, disait « il pense en cercle concentrique, il commence par le Tarn, puis la région, puis la France et puis l'international ». Quels sont aujourd'hui les défis que doit relever le groupe Pierre Fabre, Marc Alias?
Alors oui, aujourd'hui, on est vraiment une entreprise internationale puisqu'on fait pratiquement 2/3 de notre chiffre d'affaires dans le monde. Nous sommes présents sur tous les continents. Je vais vous donner un chiffre qui vous montre effectivement quel est peut-être le principal challenge. Quand on regarde notre effectif, on est près de 10 000 dans le monde. Vous avez pratiquement la moitié de ces personnes qui sont dans l'entreprise depuis moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu M. Pierre Fabre. Et nous sommes une entreprise qui est portée par des valeurs que Pierre Fabre a su nous léguer d'une certaine manière. Et donc le principal challenge, à mon sens, c'est de faire perdurer ces valeurs tout en s'inscrivant dans une modernité, une capacité à s'adapter à des défis mondiaux. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui développer nos activités comme on le faisait il y a 10, 20
ou 60
ans. Ou 60 ans. Mais ce qui reste, c'est un certain nombre de valeurs, de vertus que Pierre Fabre nous a léguées. Et ça, c'est très important d'être dans cette optique et de transmission et en même temps de capacité d'adaptation aux défis du monde d'aujourd'hui.
Ces valeurs, vous l'avez dit, c'est l'attention à l'autre, l'attention à la nature, le respect de la nature, le respect de l'homme.
Absolument. Alors, on a, il y a maintenant près de 4 ans, à l'initiative d'Éric Ducournau, directeur général, on s'est reposé la question de savoir mais pourquoi est-ce que finalement Pierre Fabre existe ? On ne s'est pas posé la question de savoir ce que nous faisions. On est un laboratoire pharmaceutique, un laboratoire dermocosmétique. On développe.
Vous cherchez la raison d'être. Bandas.
Mais quelle est notre raison d'être ? Et là, on a identifié l'innovation au service des patients, l'innovation pour prendre soin, qui était quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, très, très cher à Pierre Fabre. Le respect de la nature, c'est-à-dire aller trouver dans la nature ils ont des bienfaits. Vous avez aujourd'hui près de 75% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à partir de produits dont l'actif est naturel. Mais ça nous donne aussi le devoir de respecter cette nature. Et Pierre Fabre était un exemple en la matière. Autre valeur, effectivement, c'est ce goût des autres, cette citoyenneté qui veut dire je suis dans un environnement, un écosystème. Qui me permet de vivre, mais donc je dois aussi rendre à cet environnement ce qu'il m'a donné. Et donc on peut parler certaine générosité, enfin quelque chose qui dépasse le simple sens du profit.
Merci beaucoup, merci Marc Alias pour cette présentation. Donc le groupe Pierre Fabre qui fête ses 60 ans et merci aussi pour cet éclairage sur son fondateur.
Merci à vous.